France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie-Jo, Marie et Dominique, bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
C'était comment Marie quand le château d'Angers était habité ? Alors vous nous avez trouvé la réponse grâce à Catherine Leroy, chef du service culturel du château d'Angers, et Fabrice Souletti, enseignant. Et c'est au tour de l'exposition participative et pédagogique « Le retour du roi ». Marie-Jo, votre coup de cœur littéraire de la rentrée, c'est « Finistère » par Anne Berest. Et je suis certaine que vous allez nous convaincre de le lire. Et pour commencer, encore une fois, les éditions 303 ont frappé très fort. Leur collection Carnet d'Anjou propose des fascicules faciles à lire et aussi à emporter sur les lieux d'histoire. Et ce mois-ci, elles nous livrent leur dernier ouvrage consacré à l'abbaye Saint-Aubin. Dominique, on commence tout de suite avec vous. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. Curiosité sous toutes ses coutures.
Dominique, depuis deux siècles, le souvenir de l'ancienne abbaye Saint-Aubin s'est effacé dans l'esprit des Angevins. On ne voit plus dans ce lieu que la préfecture et le conseil départemental. Pourtant, l'ancien établissement religieux est toujours présent dans le paysage de la ville, avec notamment sa tour des cloches, qui rivalise quand même avec les flèches de la cathédrale, ou aussi par l'ampleur des bâtiments autour du cloître et au fond des jardins.
Alors je vais vous dire, pour mieux comprendre l'histoire de la plus importante abbaye angevine, je vous propose de retenir quatre dates seulement. Milieu XVIe siècle, la basilique est construite pour recevoir les dépouilles d'Aubin, il est évêque d'Angers. XIIe siècle, les effectifs augmentent et les dons affluent car l'abbaye garde et présente très jalousement ses reliques et permet ainsi la construction d'une abbaye beaucoup plus complète. Milieu XVIIe siècle, c'est pour rompre avec le déclin de l'abbaye que les moines adhèrent à la congrégation de Saint-Maur. Saint-Maur, c'était l'organisme monacal qui demandait à ce que la règle de Saint-Benoît soit respectée avec beaucoup plus strictement. Et ces moines de Saint-Maur engagent la reconstruction des bâtiments autour du cloître. Enfin, dernière date, fin 18e, début 19e, comme vous l'avez déjà dit, le conseil départemental puis la préfecture s'installent dans ces bâtiments désaffectés.
Alors elle a été très célèbre, cette abbaye. Pourquoi a-t-elle eu cette notoriété en Anjou et en France ?
D'abord, c'est très simple, parce que c'est la plus ancienne fondation et qu'elle s'établit au plus près du siège de l'évêque et de la cathédrale, et au plus près des instances administratives de la ville. C'est donc la seule abbaye intramuros sur la rive gauche de la Maine. Mais c'est aussi parce qu'elle a fait l'objet d'attentions particulières auprès des rois et des comtes, et qu'elle est devenue un centre intellectuel et artistique grâce à son scriptorium.
Alors, je vous arrête. C'est quoi un scriptorium ?
Le scriptorium, c'est une salle d'études, c'est un lieu d'écriture et de conservation des actes religieux et juridiques.
Alors, les éditions 303 ont décidé de l'évoquer dans leur dernier fascicule. Ça montre aussi la face cachée de l'abbaye, ce qu'on ne voit pas.
Évidemment, on présente d'abord, l'ouvrage présente d'abord les vestiges de l'ancienne abbatiale, actuellement démolie et démolie méticuleusement pour donner un parvis à la préfecture. Et son emprise correspond très exactement à l'église, telle que le montre le marquage au sol, qui est en place en sol entre les pavés. On a même encore quelques fragments du mur nord de cette abbatiale intégrés dans les façades des nouveaux immeubles.
Alors, est-ce que ce sont les arcades qu'on voit dans les immeubles, c'est ça ?
C'est exactement ça. On voit les arcades, on voit les fenêtres et on voit les pilastres qui composaient donc le rythme de la façade nord.
Donc, quand on est sur la place, on est un peu à l'église, en fait.
Le vide créé à la demande du préfet a remplacé le plein de l'église abbatiale, absolument. Ensuite, dans cet ouvrage sont présentées les arcades du cloître, toujours époque romane, avec leur sculpture d'une grande richesse. Elles ont seulement été redécouvertes en 1836. Elles marquaient évidemment l'entrée de la salle capitulaire. Autre élément de cette même époque, la tour des cloches, comme on vient de le dire, elle est détachée de l'abbaye. Et l'on pense que l'édifice aurait servi de cadre prestigieux pour des cérémonies non religieuses et de tour de guet pendant la guerre de Cent Ans et autres conflits.
Alors c'est effectivement la tour Saint-Aubin que l'on voit toujours rue des Lys, dans laquelle il y a des expositions temporaires artistiques régulièrement. Il y en a d'ailleurs actuellement et elle appartient à la ville d'Angers, si je ne me trompe pas.
Absolument.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé plus récemment ?
Plus récemment, donc, de la reconstruction mauriste, le fascicule retient la sacristie et ses boiseries, la salle capitulaire, les escaliers, les voûtes du réfectoire et surtout la chaire du lecteur. Et en ce qui concerne l'installation de la préfecture, elle a donné lieu à la création de la salle de billard, de la salle des fêtes, du salon du préfet. Toutes ces pièces sont en enfilade à l'étage, dans un style décoratif de la fin du 19e siècle. Et enfin, on a utilisé pour fermer la cour, qui était anciennement le cloître, la grille de la clôture de l'abbaye de Fontevraud, car elle n'était plus abbaye, elle est devenue prison à la même époque.
Oui, donc c'est vraiment à l'époque de la prison que ça a été transféré. Malheureusement, tous ces lieux historiques ne sont pas ouverts au public toute l'année, sauf évidemment à l'occasion des Journées du patrimoine. Il y a une autre solution, si vous pouvez vous faire inviter par votre conseiller départemental, moi je vous conseille de lui écrire, on ne sait jamais, si, surtout avant les élections, peut-être qu'il vous le fera visiter. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir ce joyau, vous les retrouverez donc dans ce nouveau numéro des Carnets d'Anjou, des éditions 303. Ça s'intitule « L'abbaye Saint-Aubin, un lieu de pouvoir à Angers ». C'est vendu au prix de 10 euros. Et je tiens à signaler que les éditions 303, qui sont de très bonne qualité quand même en général, sont éditées par le Conseil régional. Voilà, il y a plusieurs collections que vous pouvez consulter. On va faire une petite pause musicale avant de partir au château d'Angers qui est tout proche. On écoute de la pop musique d'After Geography qui seront au concert au Shabada le 16 octobre. Et on écoute la chanson Hear Me Out. Voilà, c'était After Geography avec la chanson Hear Me Out. Jusqu'au 2 novembre 2025, le château d'Angers se métamorphose pour transporter les visiteurs à la cour des princes d'Anjou il y a 600 ans, Marie.
Oui, Catherine Leroy, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes la chef du service culturel du château d'Angers, du domaine national du château d'Angers, très exactement. Alors, pourquoi cette exposition ? Quel a été son but ?
Alors, cette exposition, elle est née d'une absence, en quelque sorte. C'est que, du fait de son histoire, le château a perdu son mobilier, ses décors intérieurs. Et du coup, les visiteurs sont parfois un peu déçus de ne pas se retrouver dans le cadre de vie des ducs et duchesses d'Anjou, qu'on ne peut effectivement pas recréer, puisque les décors et les meubles, les objets ont disparu. Donc on a eu l'idée, suite à une proposition de location, dans un premier temps, de costumes, l'hiver 2022-2023, de reconstituer ce cadre de vie autour de ces costumes. Et puis ça a bien marché, on s'est dit que vraiment c'est ce qu'il fallait pour nos visiteurs.
Il y a eu une première expo.
Il y a eu une première expo, exactement.
En costume.
Retour du roi version 1. On s'est dit qu'on pourrait essayer d'avoir à demeure, en quelque sorte, ses costumes et ses meubles et objets pour pouvoir proposer régulièrement cette expo. Et donc, on est là sur le retour du roi numéro 2, qu'on a donc préparé depuis 2023 par deux canaux, deux biais, ou trois, si on peut dire, trois volets. D'une part, la collecte d'objets sur des sites spécialisés ou du moins un peu étonnants aussi, comme Le Bon Coin, Vinted, etc., où on repère des choses qui peuvent nous intéresser pour remeubler ou pour équiper le château.
Et qui sont des choses de l'époque, des
non.
objets de
ah,
l'époque.
Ah, bien sûr que non, ah, ce sont des choses... Bah oui, non, ce sont des choses de style médiéval,
ouais.
néo-gothique pour le mobilier. Non, c'est mieux pour nous, là, pour cette configuration, d'avoir des choses qui ne sont pas des choses 15e, 14e, 15e, qui nécessitent des conditions de conservation et qui nécessiteraient d'être transportées depuis des musées, sous forme de prêts temporaires seulement. Donc là, on veut, nous, avoir à demeure.
On va y revenir, là, comment est-ce que vous avez réussi à remplir ce château vide. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il était vide ?
Alors,
vous raconte un peu ça.
Oui,
est-ce qu'il était si plein que ça d'ailleurs ?
Il y avait des choses, puisqu'on a un inventaire de 1471, donc du temps du roi René, qui nous décrit tous les objets qui sont dans les 55 salles du château. Donc il y avait vraiment des choses. La cour était bien sûr itinérante, donc parfois s'en allait en Provence, s'en allait en Lorraine, et donc le château n'était pas habité. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après le départ du roi René, à la fin du 15e siècle, le château a été occupé par les militaires. Donc c'était un lieu de casernement. Et puis au 19e siècle, une prison notamment départementale. Donc là, on a supprimé les grandes cheminées, les décors, certains bâtiments se sont effondrés et on a perdu tout ce qui pouvait éventuellement rester.
Donc, mobilier, tenture, tapis.
Oui, exactement.
Est-ce que c'était une cour très fastueuse ?
Bien sûr. Vous imaginez, tous nos ducs, là, sont des proches du roi de France. Louis Ier, il est fils et frère de roi. Le roi René, il est beau-frère du roi de France et donc oncle de Louis XI. Donc, vous voyez, on est dans un environnement qui est extrêmement fastueux. Louis Ier et ses frères, on les appelle les princes aux fleurs de lys. Ça veut tout dire. Ce sont des gens qui aiment les œuvres d'art, qui maintiennent, qui ont des cours extrêmement fastueuses et qui commandent des œuvres d'art.
Alors cette évocation de la splendeur disparue du château médiéval, comment est-ce que vous l'avez faite ? Ça doit beaucoup, là, en l'occurrence cette année, à un projet pédagogique d'ampleur. En quoi est-ce qu'il a consisté, ce projet pédagogique ?
C'est un des volets de notre...
Du comment faire ?
Oui, du comment faire, remplir. Exactement. Comment remplir cette coquille vide.
Alors, projet pédagogique.
Oui, on avait eu une première expérience avec une BD qui avait été faite par le lycée Saint-Aubin, la salle. Voilà. Oui. Et c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre de la République. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de trouver des lycées qui nous accompagneraient dans cette démarche de création. En l'occurrence, on a, quelque sorte, passé commandes de meubles, de costumes, de bijoux, d'objets d'orfèvrerie, alors qui ne sont pas du tout des objets d'orfèvrerie, mais qui sont des impressions 3D peintes avec de la peinture dorée. Et on a eu la chance d'avoir 7 établissements d'enseignement du Grand Ouest qui ont répondu présents et qui sont vraiment mobilisés pour produire, ce qui représente à peu près 150 élèves. Qui nous ont suivis dans cette expérience un petit peu folle, mais très, très alors, enrichissante pour tout le monde.
150 élèves, c'est quelques enseignants aussi.
Oui.
Fabrice Souletti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous enseignez les arts appliqués au lycée Renaudot de Cholet, qu'on appelle souvent le lycée de la mode,
alors,
ici, pour aller vite.
Lycée Renaudot et le lycée de la mode, c'est deux entités
un peu
séparées, c'est le même regroupement, mais il y a deux parties
à Cholet. Donc vous êtes un des enseignants qui a accompagné les élèves dans cette aventure. Je voudrais savoir quel est... l'enjeu pour les élèves et pour les enseignants d'un tel projet ? Parce que c'est un projet de grande ampleur.
L'enjeu, il est stressant.
Ah,
il
le
est
stress.
Important. C'est-à-dire qu'on travaille là pour quelque chose qui nous dépasse, qui est le château d'Angers. On l'a entendu aujourd'hui là, quand on est allé voir. Les élèves, ils arrivent et disent bah oui, mais comment expliquer ce qui reste ? Bah, c'est le château d'Angers quand même. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est un projet qui va rester, qui laissera des marques, qui est un commanditaire qui est prestigieux.
Exigeant.
Et donc, forcément...
Il y a l'excellence, effectivement.
Voilà, il y a l'excellence et ça rejaillit sur leur travail, sur la demande. D'autant plus que, contrairement dans la partie chef-d'œuvre, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on va. C'est-à-dire que d'habitude, quand ils ont un projet, l'enseignant sait déjà ce qu'il y a à faire. Il y a le plan, donc il n'y a qu'à suivre.
D'accord.
Là, on a une demande, on a des dessins, des enluminures, ancienne, et il va falloir imaginer, enfin, restituer.
C'est comme ça. Alors, concrètement, effectivement, pour les élèves, le projet, il se concrétise comment ? C'est-à-dire qu'ils ont commencé par aller visiter le château, ils ont commencé par faire des recherches, d'avoir des cours d'histoire de l'art ?
Alors, avant d'avoir l'histoire de l'art, alors ça vient petit à petit, c'est un peu tout mélangé, mais au début, il y a la demande. Donc, Catherine qui est venue nous voir, qui nous a dit, voilà, je voudrais avoir plusieurs objets pour le château, on veut faire une exposition, et donc on aimerait avoir des objets, dans ma partie du mobilier, pour les élèves qui étaient dans la partie menuiserie et d'événements pour les élèves qui étaient à la mode. Et donc, il y avait un certain nombre de demandes. Et donc là, les élèves vont faire des recherches sur ces mobiliers ou sur ces événements pour essayer d'aller plus loin. Donc, dans ma partie, on a appliqué. Là, on a justement fouillé un peu sur Internet, cherché les enluminures, cherché des images qui correspondent et essayé de trouver... à quoi ça correspondait, et essayer de voir si ça correspondait vraiment à la demande. Et ensuite, on est retourné au château pour montrer nos recherches et déjà, dans un premier temps, avoir des réponses.
La grande professeure du moment, Catherine Laurent, on sent bien qu'il y a de l'exigence là. Alors très concrètement, les jeunes du lycée de la mode, elles ont fait... Allez, un petit bonnet, mais c'est pas le bon nom, mais elles sont parties, alors, en fait, d'une enluminure pour faire le... Elles n'ont pas eu de patron burda, comme dit Catherine on a préparé l'émission. Voilà, elles ont une enluminure, il a fallu qu'elles créent.
À la mode, alors, il y avait... je vais revenir sur le nom. Donc là, c'était un chaperon. Non, c'est pas le chaperon. Celui-là, c'était le hénin à ailes de papillon.
Hénin à ailes de papillon.
Ouais, c'est un petit bonnet. C'est un...
Et alors, il a des ailes ?
Oui, un petit bonnet, c'est immense.
Ça fait lapin ?
Coiffe bretonne un peu.
Oui, coiffe bretonne.
Coiffe bretonne un petit peu. C'est très, très long, un chapeau pointu avec une partie en voile et qui retombe, mais on ne sait pas comment ça tient. On voit qu'il y a des plis, on ne sait pas trop comment ça tient. Donc là, on va...
Sur l'enluminure, on ne sait pas comment ça tient. Après, dans ce que vous avez fabriqué, on le sait. Le secret.
Voilà. Mais il a fallu trouver la solution parce
que... Oui, elles sont parties d'une enluminure. Donc comment elles ont fait ? Elles ont fait après un dessin.
Ça, c'était ma partie. Oui, en partie à appliquer. On a d'abord, à partir de l'enluminure, cherché à redessiner, chercher des patrons. Donc parfois, on en avait, parfois, on n'en avait pas. Ça dépendait. Donc chaque projet est différent et elles ont tout redessiné avec l'idée de quand on dessine, on regarde un peu mieux. C'est-à-dire que parfois on voit un dessin et là on est obligé d'aller fouiller et essayer de dessiner en 3D et de trouver les solutions techniques, technologiques pour les fabriquer. Donc là on commence à réfléchir à l'objet et pas simplement voir un objet, ah, bah oui ça tourne. C'est oui ça tourne. Comment ça tourne ? Alors au début, on le fait par le dessin, on remonte. Donc là, moi, mes élèves, ils apprennent à la fois à dessiner et à représenter. Donc, ils vont dessiner chacun leur vêtement. Donc là, à la mode, il y avait 6 personnages, Louis Ier, Marie de Blois, Louis II, Yolande, le roi René et Jeanne de Laval. Et chacun avait des vêtements différents. Donc chacun travaillait sur des parties de vêtements différents. Certains plus simples, certains plus compliqués.
Alors, est-ce qu'il y a une partie créative là-dedans ? Parce que forcément...
Alors, à appliquer, normalement, il y a cette partie créative. En fait, mais là, la partie, elle n'est pas si présente que ça. C'est-à-dire qu'on répond à un cahier des charges. Hein. L'art appliqué, on pourrait appeler ça design maintenant. Là, dans les élèves qu'on a, ça serait design pour ceux qui travaillent dans le mobilier, et puis plutôt styliste pour la mode. Mais là, on a une demande, c'est de copier des vêtements le plus proche possible de l'existant, avec pas forcément les solutions technologiques de l'époque, mais qu'on ait l'impression...
Non, là, effectivement, je voulais en venir là, vous utilisez la 3D, vous utilisez toute la technologie moderne pour rendre...
Des éléments anciens, donner l'impression de quelque chose d'ancien. Donc par contre, il faut essayer de trouver des solutions, parce qu'ils ne travaillent pas, c'est des technologies anciennes, donc ils ne travaillent plus de la même façon, donc il faut quand même essayer de se les approprier, essayer d'avoir... Donc la création, elle n'est pas dans l'imagination du vêtement, mais elle sera dans
le façonnage.
Mais est-ce que vous avez des problèmes pour trouver des matériaux qui correspondent?
Ça
doit pas être évident, ça.
C'est une grosse partie de leur travail.
Les textiles, on a eu beaucoup de mal. On a beaucoup échangé avec les enseignantes pour essayer de trouver des textiles. En fait, il faut imaginer que nos ducs et duchesses d'Anjou, là, ils avaient des vêtements brodés. Donc, on ne pouvait pas imaginer de reproduire ce type de... ça aurait été trop onéreux, trop compliqué, trop long, etc.
Trop long,
oui. Ouais. Donc, on a essayé de chercher des textiles imprimés. On trouve sur des sites à l'étranger. trouver. Hein. Il y a des spécialistes comme ça de tissus. Mais on a vraiment eu beaucoup de mal. On a dû parfois se résoudre à faire des vêtements en uni, alors qu'on aurait espéré avoir... On a fait des tentatives aussi...
D'impression.
D'impression, oui. Qui n'ont pas été... Oui, on va peut-être y retourner.
Mais... On l'a fait. On les a mis un peu en retrait, là. Il y a certaines parties qui sont présentées, mais un peu en retrait pour que ça donne illusion dans l'exposition. Mais voilà, on a cherché à faire des choses qui correspondent, mais qui ne sont pas toujours exactement...
Mais c'est chouette aussi cette partie qui a nécessité tant pour les élèves de la mode que les menuisiers de trouver des solutions techniques à des choses. Hein. On avait par exemple un devant de coffre qui nous a été donné et que les élèves de Renaudot ont dû réintégrer dans une structure, faire un tour, un socle, etc. Et là, ça a été assez rigolo parce que...
Oui, alors au départ, ils auraient dit, c'est très simple, on va prendre, on va couper à droite, on va couper à gauche, parce que c'était vieux, c'était assez irrégulier, il y a des clous qui dépassaient, on va faire le cadre. Et là, on s'est dit, non.
Non, là, alors on leur a dit non, c'est hors de question, vous ne coupez pas.
Là, il y a un clou qui dépasse. Vous adaptez au clou. Le clou doit rester exactement à l'endroit où il est dessus. Donc, on le retrouve dans l'exposition. Ils ont fait un cadre pour adapter la façade dessus. Alors, on ne cache pas. Hein. C'est pas... Voilà, l'idée, ce n'est pas non plus d'être... c'est pas un faux. Hein. En dessus, on fait quelque chose. Mais là, donc, on voit la façade derrière. Elle s'adapte. On repère bien la façade ancienne, la façade récente. Mais voilà, la partie qui était
ancienne.
Beaucoup
de travail, beaucoup de recherche, de l'excellence pour ces élèves. Est-ce qu'on a le temps de parler de... Là, vous étiez cet après-midi au château, Catherine Leroy, Fabrice Soulty, vous étiez au château parce que ces élèves ont été récompensés là.
Oui, alors ils n'étaient pas au château parce qu'ils ont été récompensés.
Ils sont pas venus,
ce qu'on a vu cet après-midi, c'est les nouveaux. C'est
la prochaine expo.
On continue.
Le retour du roi 3.
C'est exactement. Été 2027, on aura une nouvelle exposition. Et donc, on a demandé, fort de notre expérience très positive, on a demandé aux élèves 5 nouveaux meubles. Enfin, on avait demandé 4 et les profs, ils ont poussé à la roue, ils voulaient un cinquième, ce qui est quand même génial. Ça dépasse nos attentes, c'est super. Donc, on leur a demandé 5 choses qu'on n'a pas actuellement dans l'exposition. Et les élèves qui ont participé à la version 2 2025.
Celle qui est exposée en ce moment.
Celle qui est présente en ce moment. Ont concouru de manière commune, puisque c'est le même établissement, donc La Mode et Renaudot, ont participé au concours Colbert, qui est un concours qui récompense le travail des lycéens, et notamment les chefs-d'œuvre. Et donc, ils ont eu le prix académique qu'ils ont reçu au mois de juin. Et là, ils viennent de recevoir, ils sont allés chercher à Paris, à l'Institut de France, le prix national coup de cœur du jury. Donc une très belle récompense qui montre l'excellence du travail des lycéens professionnels et qui permet de montrer toute la fierté de ces élèves qui, à la fois les élèves de Cholet mais les autres établissements aussi, alors c'est certes ceux de Cholet qui ont eu la récompense, mais c'est un ensemble aussi de...
Une émulation générale.
Il y a le lycée
de Giel,
il y a le lycée Doré, enfin il y a beaucoup d'autres établissements qui ont participé et tout ça, c'est absolument merveilleux de constater à quel point nos petits jeunes là sont efficaces, enthousiastes, trouvent des solutions et surtout extrêmement fiers de participer à une...
Ils peuvent. Ouais. Ils peuvent, l'exposition est formidable. Hein.
Ouais, c'est gentil, alors, merci.
J'en reviens à une question que j'avais justement, est-ce que vous avez senti que ça avait créé une émulation et une motivation supplémentaire pour vos élèves, ce projet ?
Ah, c'est un but. Il y avait un but à faire. Et donc là, à l'atelier, ils étaient clairement très, très motivés, complètement dessus. Ça prend du temps à partir. Là, sur les nouveaux qui viennent, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose encore abstrait, même s'ils voient ce qui a été fait. Donc, ils le voient en situation. Mais ça reste abstrait. Ils ne sont pas encore dedans. Mais l'autre, il y avait quand même un enjeu important. Et du coup, une motivation vraiment importante et supplémentaire.
Catherine Leroy, Fabrice Soulty, merci. Vous pouvez retrouver l'exposition. Elle se déroule au château jusqu'au 2 novembre.
Au Logis Royal.
Voilà, on espère un peu. Bon, on verra.
Si on prolonge.
Surveillez, allez sur le site du château.
Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de ce beau projet très positif. Marie-Jo, je crois que vous allez encore nous donner envie de lire. Aujourd'hui, votre coup de cœur, c'est Finistère, d'Anne Berest, publié chez Albin Michel. Il est en lice pour 3 prix, le prix Renaudot, le prix Interallié et le prix de l'Académie française.
Tout à fait. Et quand je dis que j'ai aimé ce roman, on me répond « Ah oui, j'ai lu la carte postale de cette autrice !» Il n'est pas rare que les lecteurs aient préféré quand même la carte postale à Finistère. Et pour cause, dans la carte postale, on plonge dans une enquête qui vire au polar. Je rappelle juste qu'à travers cette enquête, Anne Berest retraçait le destin de ses ancêtres côté maternel, les Rabinovitch, où seule sa grand-mère Myriam échappa à la déportation. Et là aussi, elle parle de sa famille. Pendant la promotion de la carte postale, toujours en 2021, Anne Berest apprend que son père est atteint de 2 cancers. Il meurt 1 an plus tard. Finistère retrace cette fois l'histoire de ses ancêtres paternels, des Bretons, d'où le titre, mais aussi de la relation timide qu'elle a eue avec ce père. Je cite « Pendant toute ma vie, j'ai regardé mon père comme un mystère. Polytechnicien, mathématicien de très haut niveau, ce fut un homme qui a passé sa vie à jongler avec les équations. Mais il était aussi mystérieux, insondable, beau, ténébreux, dur. »
Ah ben je crois que c'est grâce au père que vous aimez le livre. Hein.
C'est vrai que j'ai regardé la photo sur internet et que je ne démens pas.
Ah oui, on sent l'enthousiasme là. C'est peut-être pas Anne Berest en fait.
Il est beau, il est beau. Mais il était à l'écart du monde. Il n'avait pas le permis de conduire, par exemple. Et il avait un rapport compliqué aux choses simples de la vie. Bref, à l'hôpital, elle demande de passer du temps avec lui pour faire un livre. Il dit OK. Et il propose de parler d'abord de ses recherches. C'est pas tout à fait ce que Anne Berest attendait. Mais c'est parti pour des tête-à-tête, pour le plus grand bonheur de l'autrice. Elle a hésité, mais elle a bien fait de les retranscrire dans les grandes lignes. Car c'est vrai, on n'y comprend pas un traître mot. Mais lire ses recherches savantes ont renforcé mon respect et mon admiration pour cet intellectuel hors pair.
Bon, alors on y revient. Vous avez admiré l'intelligence de Monsieur Berest. Mais alors, ce livre, donc, on ne comprend pas ce qu'il raconte et ses recherches. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le livre, alors ?
J'y viens. J'ai aimé, premièrement, l'analyse très fine de, je cite, « l'expérience singulière de vivre auprès d'un silencieux, où chaque geste est un message. Jamais il ne lui a dit qu'il l'aimait, ne prenait pas de ses nouvelles, et lui a refusé toute sa vie la complicité qu'elle attendait. »
Alors, quelle explication elle donne au comportement de ce père que visiblement elle aime puisqu'elle cherche à se rapprocher de lui? Est-ce qu'elle comprend cette froideur? Est-ce qu'elle comprend cette distance? Ou voilà, comment elle réagit face à ça?
Alors, c'est le problème et je ne vais pas vous dire si dans le livre, son père a fini par lui dire qu'il l'aimait, mais...
C'est la surprise.
Oui, mais elle amorce quand même un embryon d'explication, parce qu'elle s'est beaucoup posé la question. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé l'évocation des femmes fortes de sa famille, dont Lélia Picabia, qui est une femme formidable à mes yeux.
Et peut-être que la force de cette femme a rendu cet homme silencieux.
Bien sûr. Enfin, c'était elle, elle s'occupait de toute l'intendance, elle l'assistait, puisque lui, il était tout le temps dans sa bulle. Et Lélia s'occupait de tout. C'était aussi une chercheuse, une grande universitaire. J'ai aimé aussi, troisièmement, la structure du livre, avec une alternance de chapitres. Tantôt, les vastes mouvements du temps sur 4 générations, avec un retour aux sources qu'est la Bretagne, où l'on retrouve notre grande histoire collective. Tantôt, dans un autre chapitre, sa relation avec son père.
Quel est votre avis sur cet écrivain, sur sa plume, sur Anne Berest en général?
Alors, je trouve qu'à la télé, elle apparaît comme la Parisienne chichiteuse.
Bon, c'est bon. Cécilie Radeau Campus, Angers.
Elle dit elle-même qu'elle a une féminité exacerbée. Je trouve qu'elle s'écoute parler, elle a une voix au perché et ça m'agace un peu. D'ailleurs, son père lui a reproché son embourgeoisement.
Alors, il faut dire que son père, lui, était plutôt un révolutionnaire. Il a été extrêmement militant et elle se situe plutôt aux antipodes de ce profil.
Oui, il a été trotskiste, il lui a avoué pour la première fois. Et elle, en fait, elle penche plus à droite. Elle a épousé un financier, d'ailleurs. Et je termine quand même en disant que je trouve Anne Berest, en tant qu'écrivaine, elle m'est apparue humble, sincère, avec un sens du rythme qui est agréable à lire. Et si, je cite, « côtoyer un taiseux, c'est connaître une langue, sa langue à elle est délicate, souple et déliée. » Il ne reste plus qu'à attendre la proclamation des prix qui embrase les journaux et les réseaux sociaux en ce moment.
Merci Marie-Jo, c'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Sylvain pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans aucune modération. Très très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.